L'écurie Red Bull a-t-elle déjà plié le championnat du monde de F1 après la domination de Verstappen au Grand Prix de Bahreïn, qui a réussi le grand chelem avec la pole position, le meilleur tour en course et la victoire? On peut légitimement se poser la question. Mais Ferrari, tout comme Mercedes, ne sont pas abattus par cette domination et sont même rassurés, analyse avec Nufana du paddock. La situation semble en revanche plus critique pour Alpine, qui végète en fond de grille. L'écurie française peut-elle rebondir? Tout comme Christian Horner, qui, bien que blanchi, semble toujours empêtré dans un scandale de harcèlement qui tire les ficelles. Débat. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode dont refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, s'il vous plaît. Vous le savez, On refait la F1 dispose désormais de sa propre chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. L'émission sera encore disponible quelques temps également sur la chaîne dont refait le Mac, avant de basculer définitivement sur la chaîne YouTube dont refait la F1. Donc, abonnez-vous, c'est important. Et attention, nouveau jour de diffusion, vous le savez désormais, On refait la F1, c'est tous les lundis, bien sûr, après un Grand Prix, c'est plus le jeudi, c'est le lundi. On débat maintenant à chaud avec pour arbitrer nos fanas du paddock, dont l'expertise est parfois, comment dire, de mauvaise foi,
tienne, oui.
Notre team principal, Éric Boullier. Bonjour Éric.
Bonjour.
Ça va Éric, en duplex?
Ça va bien, toujours. Oui.
À mes côtés, notre polémiste de la F1, fan de Lewis Hamilton et de son écurie Mercedes, qui a retrouvé des couleurs ce week-end, monsieur Laurent Pantanach.
Bonjour tout le monde, des couleurs.
Bah, bientôt, tu vas te mettre au rouge.
Oui.
Et de retour également cette semaine pour défendre les Bleus qui en ont bien besoin, l'écurie Alpine bien sûr, Guillaume Pommier. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Et avec nous cette semaine, on a la chance d'avoir celui qui défend le mieux l'Église Ferrari, hein, qui porte haut et fort les couleurs rouges, monsieur Alain Di Duca, surnommé Don Camillo. Bonjour Alain.
Bonjour à tutti.
Ça va? Tu as retrouvé un petit peu le sourire ce week-end?
Ouais, mais c'est bien. Ouais.
Voilà. Quant à moi, vous le savez, je demeure le supporter du pilote qui vit le mieux avec les années. Hein. Il a annoncé qu'il va tenir jusqu'à 50 ans au volant de la Aston Martin. Il s'agit bientôt, bien sûr, de monsieur Fernando Alonso. Et avant de débuter, un petit clin d'œil à nos sponsors. Cette semaine, à commencer par NordVPN, qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net. Et pour vous, fans de F1, une solution économique et simple pour regarder la F1 sans abonnement. Ou presque, vous allez voir, Laurent vous dira tout dans un instant pour profiter des Grands Prix de F1 sans abonnement ou presque. Autre sponsor cette semaine, il s'agit de Unibet, hein, le site de Paris en ligne. Vous savez que je ne savais pas qu'il était possible de miser sur les Grands Prix de F1. Et pour le découvrir, Unibet vous propose 100€ de bonus en cas de premier pari perdant, versé en ce qu'ils appellent les free bets. On vous dit tout en fin d'émission pour les pronos du Grand Prix de Jeddah. Rappelons bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il faut bien sûr jouer de manière responsable. Allez, vous êtes prêts messieurs pour faire un débrief de ces essais de ce premier Grand Prix de Bahreïn. Radio check.
Radio check.
Loud and clear.
Allez, on enchaîne tout de suite avec le premier chapitre de cette émission et la large victoire de Verstappen. Un hat-trick pour Max qui réalise la passe de 3, pole position, meilleur tour en course et la victoire. Et il a dominé sans partage, messieurs. Qui veut faire ce constat qui se répète maintenant depuis près de 2 ans, Guillaume? Allez, lâche-toi.
Il n'y a pas grand-chose à dire de différent par rapport à l'année dernière. Comme on le pressentait après les essais hivernaux, Red Bull a la meilleure voiture en ce début de saison. Bravo à eux pour le changement de concept. Verstappen étant toujours un excellent pilote, en osmose avec son écurie et sa voiture, il a dominé de la tête et des épaules le Grand Prix. Donc bravo à lui. Et ça nous promet une saison difficile en termes de suspense. Mais je pense que le championnat est déjà plié du côté de nos amis chez Red Bull et de Verstappen.
Alors c'est vrai que la course, Laurent, était plutôt ennuyeuse. Hein. Il s'est échappé, on ne l'a plus revu après. Hein. De là à dire qu'elle est pliée, je ne sais pas.
Non, il y a quand même des choses positives sur ce Grand Prix, mais sur Max, il a été magistral comme toujours, hein, c'est-à-dire que même si on n'a pas parlé des essais, mais puisqu'on parle de Max, c'est intéressant, c'est pas lui qui a fait le meilleur temps des essais, hein, puisque en Q2, Leclerc avait fait un meilleur temps que lui, mais sur le dernier... Hein, sur le dernier truc, il est là, quoi. Le mec reste un excellent pilote. Il est parti. On l'a vu partir. Et c'est marrant parce qu'en 2-3 tours, il y avait, ça y est, il y a l'écart. Et après, le reste, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. En plus, il a un côté un peu lancinant, ce circuit.
Il est assez particulier. On va en parler avec Eric. 22 secondes d'avance sur Pérez, Eric.
Sans forcer. Hein.
Sans forcer. Il semble qu'Adrien Newey a réussi son pari avec un tout nouveau concept. Laurent en parlait, avec un système de refroidissement entièrement revu. Et ça fonctionne du tonnerre. Et la capacité de progrès semble même encore là. Ils vont progresser encore. C'est assez flippant, Eric.
Alors, je parlerai plutôt de Pierre Vacher. Parce que, bon, tant qu'à faire, un Français qui dirige l'écurie Red Bull et qui dirige l'équipe technique, autant le mettre en avant. Parce que c'est quand même lui, en fait, qui prend les grandes décisions. D'ailleurs, il a eu une interview très intéressante dans l'équipe avec Fred Ferret, où il explique que voilà, la voiture, l'année dernière, ils avaient fait un peu le tour. Et comme on sait en Formule 1, si tu ne développes pas, tu recules, tu ne fais pas de surplace. Donc, ils ont pris cette décision de changer tout le concept de la voiture. Et je dois avouer que c'était très brave. Et ça, c'est Pierre Vacher qui prend la décision et qui coordonne ça. Donc, chapeau à ce grand monsieur de la F1 que je connais. Et d'ailleurs, il est très, très, tellement humble que de le voir un petit peu, de faire une interview, c'est toujours intéressant à lire.
On va aller voir tout de suite cette interview sur l'équipe. Donc Camille, Monsieur Didouka, pour toi, est-ce que le championnat est plié? On va parler de Ferrari dans un instant, mais juste la performance décourageante et la perspective de progrès de cette voiture, quel est ton sentiment au lendemain du Grand Prix?
Je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que côté pilote, c'est plié. Côté écurie, je vais être comme notre ami Pépone de la semaine dernière, je crois que Ferrari là, tient le bon bout parce que c'est un très bon début de saison. Et que quelque part, il y aurait eu un match à trois beaucoup plus consistant et amusant peut-être s'il n'y avait pas eu les ennuis de frein de Charles, qui a ralenti Carlos et en même temps qui a fait que Carlos n'a pas pu faire la jonction avec Pérez. L'autre point quand même, en termes d'ennuis, j'enlèverais un truc. Quand on regarde les temps des essais, c'était vachement serré. Il y a une seconde de la première,
mais c'est tout le paradoxe. Je suis d'accord avec toi. C'est tout le paradoxe. Quand j'ai vu qu'il y avait qu'une seconde, je me suis dit, mais dans la course, ça va être, tu vois, et en fait,
alors on va en parler. Quand même des difficultés à se passer, quoi qu'il arrive.
On va en parler. Est-ce que le circuit joue un petit peu quand même pour conclure sur la domination de Verstappen, Eric, qui est quand même très typé ce circuit de Bahreïn, et que peut-être que comme tu l'as dit, avec les écarts qui se resserrent, il n'y aurait pas 22 secondes d'avance au prochain Grand Prix.
Oui et non. Alors, a priori, il y en aura moins sur les prochains Grands Prix parce que Bahreïn est un circuit très abrasif. Et malheureusement, pour nous, spectateurs de la F1, ça veut dire que la Red Bull est non seulement rapide sur un tour, mais elle est aussi rapide sur les longs runs. Oui, je ne veux pas dire que c'est plié pour la saison, mais en tout cas, c'est très mal engagé pour quelqu'un d'autre que Max Verstappen d'être champion.
Sauf en mécanique, bien sûr.
C'est pour ça que tu as ce décalage de 22 secondes, en tout cas à Bahreïn.
Bien, ça promet. Allez, terminé.
Quel est le plus grand temps d'avance d'un pilote?
Bonne question. On n'est pas encore au Quiz F1, mais je t'en prie.
Ayrton Senna.
Ouais.
1 minute 24. Avec du style 6 ou 7 arrêts. Quoi.
Sur le deuxième, tu veux dire?
Ouais.
D'accord. C'est
énorme.
Parce qu'il y a un tour d'avance.
Ah oui, il y a un tour d'avance. Mmh. Mais tu te dis, est-ce que finalement, à un moment donné, il devrait pas aller chercher ce record, quoi?
Non, la question, c'est savoir s'il faut à un moment donné, il faut inclure dans le règlement des pénalités comme il existe dans d'autres disciplines de
golf. Un handicap.
Où on met un peu de poids, quoi. Voilà. Bref. Allez, Ferrari termine troisième avec Sainz à 25 secondes. Mercedes brillant en essai libre, on le disait, seulement cinquième avec Russell à plus de 46 secondes. Un écart important, pourtant, le constat est. Et somme toute assez positive, vous allez voir, explication. Alors, après le Grand Prix, Mercedes et Ferrari semblaient rassurés avec Sainz sur le podium, Leclerc quatrième, qui était lui très frustré à la fin du Grand Prix, ça m'a vraiment marqué lors des interviews. Mais somme toute, le team principal, Frédéric Vasseur, se montrait plutôt satisfait. Donc Camille, la nouvelle voiture semble avoir corrigé pas mal de défauts de l'année dernière et c'est assez encourageant. Hein.
Ce que Fred dit aussi, c'est qu'elle semble pouvoir être plus facilement maniable dans les corrections de réglages qui peuvent être faites. Donc ça, c'est un point très important. L'autre chose, c'est clair, je veux dire, Pérez jouait avec les Ferrari, et je pense que d'un Grand Prix à l'autre, ça risque d'être amusant à ce niveau-là. Je pense que les Ferrari ont quand même, a priori, une longueur d'avance sur Mercedes.
Ah, toi, tu penses qu'ils sont devant ?
Ils sont devant, parce que pendant les essais, oui, ok, les Mercedes étaient excellentes, puis elles étaient vachement basses, hein, à un moment. Donc, voilà, ça tapait, ça se voyait. Donc, j'irais, oui, Ferrari est plutôt bien. Et quand, alors, ce qui est terrible, c'est l'écart entre Checo et Max. Hein, c'est, là, je crois qu'au niveau du moral, il va finir par craquer. Non, mais
c'est marrant parce que moi, ça ne me choque pas. On sait que la voiture, elle est faite pour Max. Finalement, je me dis, il s'en sort bien, quoi. Le mec, il part, il fait comme l'année dernière. Hein. Il part 5e, 6e, il finit second. Alors là, il n'était pas second depuis 7 Grands Prix, quand même, hein, je crois. Donc c'est, lui, je vois le contraire, quoi. Je me dis, il est sur la deuxième marche du podium.
L'année dernière, il était à peu près. Au courant de l'année, quand il a commencé à avoir des velléités d'être le vrai concurrent de Verstappen.
26 points, 18 points. Jamais été à aussi peu de points du leader.
Hein. Ouais, mais en début de saison, il avait bien démarré aussi. Il démarre toujours plutôt bien les saisons. Donc la bonne nouvelle, tu l'as dit, c'est que la voiture semble mieux équilibrée, elle détruit moins les pneus et plus économiquement les pneus que l'année dernière. Charles en revanche était sur la première ligne à seulement 3 dixièmes de Max lors des essais et essais qualifs. On voit bien que l'écart se resserre par rapport à l'année dernière de manière générale, hein. Bon, après, Leclerc a rétrogradé, certes, mais passant de la première à la quatrième place, mais il y a des raisons pour cela.
Hein. Les raisons sont claires, quoi. C'est ces ennuis de frein, hein, où a priori il y avait une énorme différence de température entre gauche et droite, d'après ce que j'ai compris. Donc je pense qu'il aurait au moins pu jouer au niveau de Sainz, si pas mieux. Sainz, quant à lui, il a été retardé par Charles à un certain moment.
Donc, puis il partait de plus loin, donc il a fallu passer.
Ça me paraît très positif. Et puis, course très très solide de Sainz. Hein,
et puis on a vu, Eric, à partir des deux tiers du Grand Prix, Charles Leclerc était débarrassé de ses ennuis de frein. Il a vraiment réalisé une très belle fin de course. Hein. Le second meilleur temps absolu du Grand Prix, même s'il y a plus d'une seconde encore tout de même de Max. Mais est-ce que tu penses que ce Grand Prix reflète véritablement les forces en présence, notamment du côté de chez Ferrari, Eric ?
Oui. Ça confirme en tout cas ce qu'on avait un peu pressenti lors des essais ou à travers les différentes interviews des interlocuteurs. C'est clair que Ferrari a fait un step en corrigeant ses erreurs. Ils ont fait un step qui leur permet d'aller un peu plus haut. Je pense que, je suis d'accord avec Alain, ils vont se situer entre Pérez et Max régulièrement. Après, on va voir le reste de la meute.
On a vu quand même, moi, ce qui m'avait un peu interloqué, je le disais en préambule tout à l'heure, c'est le niveau de frustration de Leclerc, hein, qui n'a pas mâché ses mots. Hein. Je cite, la voiture était nulle part. Il semble vraiment avoir la pression, battu par son coéquipier Sainz. Alors, comment tu as jugé ça, Guillaume, concrètement ? Cette impatience, on sent Leclerc. Hein. Ronge son frein, son jeu de mots, depuis deux saisons maintenant.
Je pense qu'il y avait un peu de frustration chez Charles Leclerc. À mon avis, ce n'est pas lié à l'arrivée d'Hamilton, c'est plutôt lié au décalage entre ses attentes. Il avait pour ambition de titiller Pérez et d'être plus proche de Verstappen. Et les problèmes de frein ont empêché la voiture de dérouler la course comme ça devait l'être. Et puis la deuxième raison, c'est Sainz qui, pour le coup, a fait un super Grand Prix et lui passe devant. Donc sa lutte interne pour avec Sainz, il a un peu de retard. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Alain et le niveau de Ferrari, clairement, c'est le verre à moitié plein. C'est que c'est beaucoup mieux que l'année dernière où ils étaient environ à 8-9 dixièmes de Red Bull. Aujourd'hui, ils sont à 4-5 dixièmes, donc ils ont réduit l'écart de moitié.
Le verre à moitié. Même moins 3 dixièmes en.
Ouais, en course. Mais le verre à moitié.
En essai.
Le verre à moitié vide, c'est quand même que ils sont encore loin derrière Red Bull. Je pense que Ferrari, ils veulent être champion du monde. Et clairement, ils ne le seront pas cette année.
Laurent, la bonne surprise, c'est le niveau de performance. Tu le disais, la W15, la nouvelle Mercedes, du moins, aux essais libres. Comment tu as analysé ça de ton côté, Laurent ?
Alors, c'est marrant parce que tout le monde s'enthousiasme de ce niveau. Oui, alors oui, c'était bien. Et en termes de temps, hein, on a regardé.
Le meilleur temps de l'essai libre 2. Hein,
oui, tout à fait. Mais après, tu sais, le problème des séances d'essai libre, c'est que tu sais pas quoi est-ce qu'ils ont comme. Tu sais ce qu'ils ont comme pneus, mais tu sais pas ce qu'ils ont comme
package
aérodynamique, les tests qu'ils font et le poids de l'essence.
Le comportement, on a regardé les essais avec Don Camille et avec M. le maire tout à la semaine dernière. Et on voyait que la voiture était stable. Et on disait moins que la saison dernière. On sentait quand même que la voiture avait du potentiel et réussissait au réglage quand même. Donc c'est oui. quand même encourageant.
Il y a deux choses, il y a deux choses que je trouve encourageantes. La première, c'est que la voiture avait ce comme tu disais, elle semblait, alors après c'est un regard extérieur, et les pilotes étaient contents. C'est-à-dire l'an dernier on a quand même vu Hamilton ouais. sortir plein de fois en disant et là il a dit bon ben ouais, ouais non j'aime bien tu vois les deux, et Russell et Hamilton. Donc ça c'est le côté positif. Après pendant la course, bon ils ont eu de gros soucis mécaniques quand même hein. Ils ont eu des problèmes de refroidissement, ils ont eu des problèmes ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont
c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle parce que tu te dis bon, mais peut-être que s'ils corrigent ces problèmes-là, ils arriveront à avancer. Oui, on pourrait avoir quatre écuries. Enfin, en tout cas, ma crainte, c'est qu'on ait Verstappen et de fait Red Bull qui soient loin devant, et donc on ait toutes les courses avec le Verstappen devant, et que derrière, on ait finalement une compétition entre quatre écuries, c'est-à-dire les trois a priori du jeu suspect, c'est Ferrari, Mercedes, McLaren. Avec, on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec Aston. On est un peu déçu du résultat, mais il faut se méfier. Et qu'on ait un peu cette espèce de panier avec, on a les meilleurs sont Ferrari des quatre, le moins bon c'est Aston, et au milieu, il y a McLaren et Mercedes qui se tirent la bourre. Et finalement, au gré d'une bonne qualif, un bon fait de course, une bonne stratégie, un bon changement de pneus, bon moment, on a 8 pilotes sur ces... alors, pas 8, parce que j'enlève Stroll. Grosso modo, Sainz et Leclerc vont être là. Je pense que Russell, Hamilton vont être là. Je pense que Piastri, Norris vont être là. Après, le dernier, c'est surtout... Même s'il a fait une bonne remontée, hein, là, Stroll. Allez, je me tais.
Eric, Laurent le soulignait, Toto Wolff a souligné des problèmes de surchauffe, de la Mercedes, qui est plutôt une bonne nouvelle. Et au-delà, on voit bien qu'il y a aussi des tentatives de ne pas simplement copier Red Bull, comme la plupart des écuries. Hein. Mercedes innove également. James Allison, le papa de la W15, a introduit de belles nouveautés et ne se contente pas, encore une fois, de copier Adrian Newey sur la Red Bull. Est-ce que tu peux nous en parler ? Notamment son système de suspension avant, assez étonnant.
Oui, en fait, c'est un peu la force de Mercedes, d'ailleurs, sur toute la partie mécanique châssis. Ils ont une très, très belle équipe. Et ils ont toujours été, d'ailleurs, depuis plusieurs années, novateurs en termes de suspension ou de différents systèmes mécaniques sur la voiture. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la réflexion de Pierre Vacher, c'est qu'en fait, même si la voiture est bonne ou pas bonne, il faut toujours innover, parce que sinon, on se fait rattraper en permanence par les autres. Et c'est bien que Mercedes garde aussi une ligne de conduite. Alors, c'est bien, quelque part, que, effectivement, comme vous disiez, ils en ont un peu sous le pied grâce à des problèmes de cooling, en fait. Hein. Ça, c'est directement au détriment de la performance.
Bien sûr.
Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que Red Bull est arrivé. Ils n'ont pas eu un seul problème du week-end à part la radio de l'ingénieur de Pérez.
Avec un tout nouveau concept, c'est vraiment impressionnant.
Avec un tout nouveau concept, oui.
Et autre innovation qui a beaucoup fait couler d'encre ce week-end, c'est un nouvel aileron qui se prolonge. Tu peux nous en dire un petit mot, Eric ?
Là, c'est simplement, de nouveau, c'est l'interprétation du règlement, comme on dit chez les Anglais, c'est-à-dire que, à la différence, nous, les Français, eux, ils interprètent le règlement et ils vont toujours au-delà de ce qu'on appelle la ligne du trait. Et donc, je pense qu'il y avait une petite interprétation qu'ils ont fait valider par la FIA, qui leur a permis d'aller allonger un peu la voiture, et ce qui devrait faciliter, en tout cas, un tout petit peu moins de traînée aérodynamique, normalement. Voilà, l'efficacité, en tout cas.
Laurent.
Ouais, il y a un deuxième truc assez génial. Effectivement, il y a ce trou sous le nez, hein, mais il y a surtout sur la dernière réglette d'aileron.
On va remontrer l'image.
Ouais, sur la dernière réglette d'aileron, en fait, ils ont réussi. Ce que dit le règlement, c'est que l'aileron doit être entier. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire des bouts d'aileron.
Je le vois,
et donc, ils l'ont fait en entier et que l'aileron doit superposer la lamelle inférieure du dessous.
Ouais.
Et en fait, ils ont réussi à faire un truc qui fait qu'elle y est. Physiquement, elle est présente, mais elle laisse passer l'air. Donc, du coup, il y a l'appui sur les extérieurs de l'aileron, mais il y a deux énormes tunnels qui permettent d'avoir un meilleur flux d'air. Bon, bien sûr, tout le monde, tous les autres... Alors, ils vont le copier, surtout, ils ont déjà commencé à porter des réclamations. Hein.
Alors, un mot sur les Aston, on en parlait tout à l'heure avec Laurent. Les Aston Martin qui ont souffert ce week-end, ça m'a fait un peu mal au cœur. Ils n'ont pu résister aux Ferrari, aux McLaren et aux Mercedes. Fernando a laissé passer tout le monde. Quelle analyse l'année dernière, c'était l'écurie qui crée la surprise. Il a quand même brillé,
début de saison,
Fernando.
Début de saison.
Ouais. Cinquième, troisième et second lors des essais libres, qualifié sixième pour finalement finir à la neuvième position. On sent que ça se joue à rien, hein, mais voilà. Comment tu as peut-être d'abord l'avis d'Eric, ça m'intéresse, du technicien avant l'avis des supporters.
Écoute, c'est toujours en début de saison. Il y a des choix techniques qui sont faits. Il y en a qui fonctionnent en simulateur, il y en a qui ne fonctionnent pas. Dans le cas d'Aston Martin, je pense que l'équipe, elle est encore à rôder. Elle a été petite équipe pendant de nombreuses années. Et maintenant, elle a les moyens de grandir. Et donc, il faut laisser le temps encore de s'affirmer comme le peut le faire aujourd'hui un Red Bull ou un Mercedes. En tout cas, pour parler sur un terrain managérial, c'est un peu ça qu'il faut faire et à quoi s'attendre.
Allez, je vous laisse répondre. Un petit avis sur Aston, peut-être. L'enjeu pour Aston, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ils n'ont pas réussi à faire l'année dernière, c'est de faire évoluer la voiture. Là, on va voir si les installations qui ont coûté une fortune au Papa Stroll vont vraiment porter leurs fruits.
Franchement, j'ai mes doutes. Voilà.
Toi, tu penses qu'elle va rester une écurie de seconde zone.
Ils ont la chance d'avoir Fernando et ils ont la malchance d'avoir Stroll, donc ils n'ont qu'un pilote. Voilà, moi je crois aussi.
Alonso, c'est pas qu'un pilote ?
Non, ils n'ont qu'un pilote.
Ah, ils n'ont qu'un seul pilote.
Parce que franchement, voilà.
Bon, en tout cas, Alonso,
pas grand-chose à dire de plus.
Qui ne cache pas son envie de rejoindre Mercedes l'année prochaine. Hein. Mais en tout cas, il peut déjà se féliciter d'avoir quitté l'écurie alpine qui a sombré ce week-end notamment. Allez, un mot au sujet de NordVPN, notre sponsor avec Laurent. Notre partenaire vous réserve une offre exclusive cette semaine via le lien que vous trouverez en description de la vidéo et en commentaire ou encore via le QR code qui s'affiche à l'écran. Quelques mots sur NordVPN et la valeur ajoutée pour les fans de F1 ou les fans de tech en général.
Bon, NordVPN, c'est un VPN hein, comme plein d'autres. Il a pas mal d'avantages. Moi, j'aime bien. Il a une interface qui est hyper simple. Donc, tu vois, tu as une carte, tu te déplaces, tu cliques sur le pays sur lequel tu veux être. Donc, ça te sert à modifier le catalogue de tes abonnements, un style, tu vois, les streamings. Donc, tu te retrouves avec des catalogues que tu n'as pas. Et pour la Formule 1, c'est top parce qu'il existe de la Formule 1 accessible sur de la télé, mais dans certains pays.
Entre autres,
la Belgique, hein, que les choses soient claires. Donc, en fait, tu te connectes sur NordVPN. Et la Suisse aussi, effectivement. Mmh. Et tu te connectes en... Non, mais par exemple, je suis allé regarder l'autre jour, j'ai trouvé une je voudrais regarder si en Italie c'est sur c'est public ou pas, j'en sais rien.
Non, je crois que c'est sur Sky maintenant.
Ah ouais, parce qu'avant c'était public. Rai. Et je suis allé écouter un commentaire sur la Rai, mais c'est magique quoi, c'est comme un match commandé par des Brésiliens quoi. C'est fantastique quoi. Donc je me posais cette question. Je dis juste le prix c'est 2,33€ par mois. Hein. C'est un abonnement sur 3 ans, mais ça revient à 2,33€. Enfin franchement ça vaut le coup. Il y a plein d'autres choses dedans. C'est-à-dire que tu peux faire du WPN, tu peux faire de vérifier si ton email a été utilisé dans des bases de données. Il y a plein de choses dans cette offre regroupée. Donc, ce n'est pas juste le VPN. Moi, je me dis, pour 2,33€, tu ne te poses pas de questions. Quoi.
Et le QR
code, moins que l'épaisseur du trait.
Le QR code vous permet d'accéder directement à l'offre. Hein. 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien de la description de l'émission, dans les commentaires ou encore le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Après, on s'est intéressé à Red Bull, après Alpine, après Mercedes. On va s'intéresser... Pardon. Après Mercedes, après Ferrari et Red Bull, on va s'intéresser à Alpine.
On va sauter ce truc, non ?
Non. Allez, séance de supplice pour notre ami Guillaume. Alpine en crise dès le début de saison. Les amis, Ocon 17e. Gasly 18e seulement. Alors, ce n'est pas les deux dernières places, Guillaume. Hein, on peut se consoler comme ça. Il y a encore deux voitures derrière.
Merveilleux.
Alors, quel est ton sentiment ? Quelle est la vraie nature du problème, Guillaume, de la 524, de la nouvelle Alpine qui a débarqué sur la piste cette année ?
Ouais, non, c'est un désastre. Hein. On va pas se mentir. je suis partagé entre indulgence et indignation.
Ah.
Indulgence parce que c'est vrai que c'est un nouveau concept. On l'avait dit il y a après les essais hivernaux, nouveau concept, ben, ça prend du temps à le développer, à le comprendre. Et on a préféré chez Alpine faire un pas en arrière pour ensuite en faire deux en avant en développant la voiture.
Ils repartent de zéro. Hein. Ils ont dit qu'il n'y a quasiment plus aucune pièce commune avec la voiture de l'année dernière.
Ils repartent de zéro parce qu'il y a eu des problèmes l'année dernière et on l'a tous suivi ici. Donc ça, c'est un peu l'indulgence que j'aurais. Après, j'ai quand même de l'indignation parce que le nouveau concept, pour l'instant, il ne marche pas. On part de très loin. On part de zéro, mais de loin. Je ne suis pas certain que les évolutions soient très rapides. à mon avis, avant plusieurs grands, enfin pendant plusieurs grands prix, on est dans cette situation-là. Donc c'est décevant pour les fans de Formule 1 français comme moi qui défendent nos bleus. Et puis indignation aussi parce que j'ai l'impression que les leçons, personne n'apprend de du passé, quoi. On voit encore qu'il y a des ingénieurs qui sont sur le départ.
On va en parler.
Marc Hartmann et le Néerlandais de Vire. Bah, Eric nous parlera de ça, oui, j'imagine, plus véhicule, en détail. Et là, je me dis, mince, on veut un peu de stabilité, on veut faire quelque chose en F1. Et pour le coup, on est loin. Donc moi, je fais un appel solennel. Aujourd'hui, plein de gravité. Eric, reviens. Ils sont devenus fous. On a besoin de toi pour remettre un peu d'or dans cette belle maison et que Alpine retrouve la place qui devrait être la sienne, la place de la France, la France éternelle, la première place.
Alors Eric, on a vu que les pilotes se sont montrés très modérés avant même le début du Grand Prix. Dans leurs propos, on sent qu'ils tentent de gagner du temps, de pas accabler l'écurie. Est-ce que la direction d'Alpine, concrètement, elle paye aujourd'hui le grand coup de balai de l'année dernière avec le départ de son patron, Laurent Russie, de son Tipeee, Otmar Schaffnauer, mais aussi Alain Perman et Pat Fry, Eric?
Je ne suis pas dans une position facile de commenter ce genre de sujet parce que j'ai toujours prôné la stabilité. Gérer une écurie de Formule 1, ce n'est pas comme gérer un groupe automobile. On ne peut pas arriver tout casser en disant si vous n'êtes pas content, allez-vous-en. Ça ne marche pas comme ça. C'est une petite communauté qui, en plus, vit tout dans le Motorsport Valley, ce qu'on appelle autour de Oxford. Et vous devez créer en fait, une équipe qui se parle, qui se comprenne, qui communique et qui ensuite va avoir, entre guillemets, les moyens et en même temps le courage d'aller développer sa voiture. Facile de copier les autres, mais ça veut dire qu'on est toujours derrière. Ensuite, innover, c'est encore autre chose. Et effectivement, s'il n'y a pas le soutien et du management, les ingénieurs, eux, peuvent facilement démissionner puisque de toute façon, ils vont être recrutés 300 mètres plus loin donc par une autre écurie. Donc, c'est un mode spécial de gestion. Et puis, je crois qu'il faut aussi avoir l'esprit un peu course, quoi. Ça reste de la course quand même à la fin, même si gérer une écurie formelle aujourd'hui, c'est beaucoup de gens à gérer. Et puis après, il y a des choix stratégiques. C'est aussi, il n'y a pas que l'écurie à faire. Lorsqu'il y a eu le gel de la réglementation des moteurs, Renault n'a pas su saisir l'occasion. Du coup, aujourd'hui, il paye le prix aussi avec un moteur qui, apparemment, est un petit peu en deçà des autres, au moins jusqu'en 2026. Donc, il y a vraiment tout à refaire et tout à repartir de zéro.
Donc, la voiture serait trop lourde, un problème de surpoids, un problème de moteur. L'ami Guillaume disait à l'instant, Eric, que deux nouveaux départs seraient à l'ordre du jour. Le directeur technique Matt Harman et le chef aérodynamicien de l'écurie alpine Dick De Beer, qui est également sur le départ et qui aurait remis leur démission. Tu les connais bien également, Eric, ces personnes?
Alors moi, je ne connais pas bien Mark Hartmann parce que il n'était pas là. Il était très jeune de mon temps. Dirk De Beer était déjà mon chef aéro chez Lotus à Enstone, donc de 2010 à 2013. Donc ce sont des gens extrêmement compétents qui ont gagné des courses, gagné des championnats, je pense aujourd'hui, sont en désaccord avec la politique de l'entreprise et donc ont choisi de partir, ce qui est quand même assez grave pour une écurie de perdre son directeur technique et son chef aéro tous les deux ensemble à un moment où on commence à prendre les décisions stratégiques sur le concept de la voiture de l'année prochaine, même si l'année prochaine, a priori, en 2025, personne ne va réinventer l'eau chaude puisqu'il y a un changement de réglementation en 2026. Donc je pense que l'année prochaine, ce sera que des évolutions. Mais là, du coup, on part de plus loin. Et là, il faut recomposer toute une équipe, recruter.
Ça pique, effectivement. Vas-y.
Ouais, et puis le recrutement est très, très, très long. Ça prend des mois, voire même des années avant de créer une équipe qui fonctionne.
Alors, Laurent et Alain, peut-on espérer un retour de situation? Bruno Famin, le nouveau patron de Alpine F1, se montre rassurant avec l'arrivée d'évolution, croyez-vous, à un scénario à la McLaren, comme l'année dernière. On sait que McLaren était nulle part l'année dernière, puis a presque gagné un Grand Prix en fin de saison.
Moi, je dirais qu'il y a une chose qui est encourageante, c'est que les écarts sont très serrés. Donc ça, ça peut permettre, pour, avec des petites évolutions, d'arriver peut-être à avancer assez rapidement dans
le rattraper le milieu du peloton.
Rattraper le milieu du peloton. Par contre, ce qui me paraît beaucoup plus inquiétant, c'est, je pense, plutôt le déficit moteur.
Et ça, on ne peut rien faire.
Ça, il n'y a rien à faire contre ça.
C'est-à-dire qu'il faut prendre encore plus de risques au niveau châssis, c'est ça en
voilà. Mais c'est ce qu'ils font en fait.
Voilà. Quant au discours des deux pilotes, j'ai l'impression que le patron de Renault a dû leur dire vous allez rester calme.
De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Hein.
Ils n'ont pas trop le choix.
Laurent, ton sentiment, on a vu qu'effectivement, les écarts sur un tour sont assez importants déjà entre Alpine et le reste de l'équipe.
On a vu qu'il y avait des écarts jusqu'à une seconde. Hein, ces trucs.
Seconde 7, une seconde 9 de retard sur Verstappen sur un tour. Donc, mais que 4-5 dixièmes, comme tu disais, par rapport au dixième. Donc, c'est pas au dixième place, donc c'est pas si loin du milieu du peloton.
La vraie difficulté, c'est que l'an dernier, ils ont dit que la voiture avait un souci, donc qu'ils commençaient à réfléchir à la voiture de cette année. Finalement, la voiture de cette année arrive, elle est encore plus problématique. Alors, attention, ça a très, très bien été expliqué par Eric tout à l'heure. C'est pas de la photographie, c'est de la vidéo. C'est-à-dire que tout le monde avance et celui qui s'arrête à un moment donné,
Le paye très cher.
Il recule. Ouais. Donc, c'est là où je suis un peu moins enthousiaste. C'est que je me dis, le chemin à parcourir, il va être deux fois plus grand parce qu'il faut et rattraper. Donc, on a vu, il y a un problème de surpoids, il y a un problème de motorisation. Alors, on le sait que le problème de motorisation, et c'est là où il y a quelques limites aussi dans la réglementation, parce que très vite, ils se sont rendus compte que la motorisation, ils avaient un problème l'an dernier avec, ils disaient, entre 10, 15,
30 chevaux. Même. Ouais, 30 chevaux.
Tu vois, quelques années qu'ils disent ça.
Donc, c'est monstrueux. Ils ont essayé de négocier avec la FIA, de voir jusqu'où ils pouvaient tordre le système, et la FIA a dit non, on ne change pas. Et c'est vrai que c'est très, très dur, hein, parce que ça veut dire que
tu restes avec un... J'apporterai un petit bémol, hein, puisqu'en fait, la FIA, elle n'a pas dit non, mais c'est... Alors, tout est venu justement du déficit moteur qu'avait Honda il y a quelques années, souvenez-vous, notamment des périodes McLaren chères à Eric, quand ils sont passés chez Red Bull. Honda a dit, on reste, mais il faut nous laisser le temps de développer plus le moteur, parce que là, on n'arrive pas à rattraper le retard. OK, et pour ce faire, la FIA s'est tournée vers les motoristes, Mercedes, Ferrari... Et Renault, il a dit, est-ce que vous acceptez de laisser Honda aller plus loin dans sa motorisation et développer son moteur? Ils ont dit oui, mais à condition qu'on nous renvoie l'ascenseur, quand on en aura besoin. OK. Donc là, Renault, l'année dernière, a demandé à son tour, sorti son joker, maintenant c'est à nous. Et les autres écuries s'y sont opposées. C'est vraiment un milieu de requin, Eric, hein, le milieu de la F1.
En fait, on s'y attendrait presque. Hein.
Non, ce que j'ai l'impression...
C'est vrai que c'est... Il y a personne ne va aider personne. Après, le cas de Honda était un peu particulier, mais c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est extrêmement important quand on gère une écurie d'être extrêmement actif en lobbying, parce que c'est le seul moyen aussi de faire pencher certaines décisions, non pas en sa faveur, mais de permettre de rattraper des erreurs, et notamment sur tous les choix stratégiques techniques.
C'est qu'à un moment donné, Renault aurait pu taper du poing sur la table, puisque c'est comme ça, on s'en va, comme a fait Honda, qui ça fait que en termes marketing, la F1 ne pouvait pas se priver d'Honda. Eh bien, on peut se poser la question si la F1 peut se priver de Renault aujourd'hui. Allez, l'autre fait marquant de ce week-end, pour arrêter le massacre avec notre ami Guillaume, c'est un autre massacre à l'arrière du peloton avec le clash Tsunoda et avec son écurie, hein, et son équipier Daniel Ricciardo. Est-il devenu Ricciardo le chouchou de Red Bull? On en parle. La fin de la course a été animée par la bataille pour la deuxième place entre Kevin Magnussen et Yuki Tsunoda, avant que le pilote Red Bull, Racing Bull, ne reçoive l'ordre de laisser passer son coéquipier Ricciardo. Et puis là, ça a été une chose terrible pour lui. Ça a déclenché sa fureur. Et après avoir franchi la ligne, il a failli carrément envoyer dans le décor son coéquipier en le doublant avec force. Quel regard vous portez sur ce énorme coup de gueule de Tsunoda? Est-ce qu'il a des raisons d'être si énervé, Laurent? On sait qu'on l'a vu. C'est vraiment le chouchou, Ricciardo, au sein de Red Bull aujourd'hui.
Ouais, mais au-delà de ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre, moi, avant, cette espèce de comportement de sale gosse, de limite de connard des pilotes. Et en fait, tu rends compte que les gars, ils sont dans la compétition, et même la 13e place, alors qu'il n'y a aucun enjeu.
Hein. Oui, il n'y a pas de
point. Non, mais tu vois, que tu te battes entre la 14, la 13 ou la 13 et la 12, ça ne change rien. Et donc, tu pourrais te dire, bon, mais le gars, on lui a demandé de passer. À la limite, s'il avait été très intelligent, il aurait dit, bon, ben super, je le laisse passer parce qu'il n'y a aucun point. Et le jour où j'en aurai besoin, mais j'espère qu'on me renverra l'appareil et je le rappellerai à ce moment-là. Après, je pense que ce n'est pas ça dans la tête d'un pilote. Je pense qu'un pilote, même en 20e position, ça reste un terrible compétiteur. Il faut imaginer que le 20e, ça reste quand même le 20e meilleur pilote de sport automobile au monde.
D'accord, tu vois, mais il y a aussi domaine. Un contexte. C'est non, un pilote Honda, par exemple. On sait que Honda ne va pas rester chez Red Bull à vitam aeternam.
Je sais.
Donc
on
c'est maintenant qu'il doit montrer.
Mais il a du caractère. On sait qu'il a du caractère. Au début, il insultait tout le monde. Il a pris beaucoup sur lui. Il a beaucoup évolué. Je trouve que c'est un jeune qui a beaucoup évolué. Il parle mieux anglais qu'avant. Tu comprends mieux. Donc, je trouve qu'il fait des efforts. Après, il a encore. Ça reste un gamin, quoi. Ça reste un gamin. Et l'autre, il se la raconte. Il fait. Tu vois, il a toujours. J'ai un peu la sagesse du Ricciardo. Tu vois, j'ai un truc. Bon, moi, je trouve ça con de la part de Tsunoda. En même temps, je suis pas choqué. Je pense que tu le vois sur tous les autres pilotes. Il est sorti de la voiture Leclerc, qui est à un autre niveau, tu vois. Ouais. Il est sorti, il était très mécontent. Et puis, une heure et demie après, il a une autre interview. Il s'était apaisé. Ils avaient commencé à discuter dans les équipes. Quelle analyse, tu vois ce qui s'est passé. Tu es content que ton ingénieur te dise, regarde, on a trouvé. C'était un réglage, un tour de vis de trois quarts trop à droite. Et tu détends. Les mecs, ils ont passé, il faut imaginer qu'ils sont à fond dans leur bagnole pendant deux heures.
Ouais.
Je sais pas. Ça met du peps un peu.
Alors, on sait que c'est à l'opposé d'Hamilton qui est très politique dans ses déclarations. Hein,
et, tout à fait.
C'est sûr que ça nous change. Mais est-ce que tu comprends, Eric, cette décision, en tout cas, du muret des stands, si tôt dans l'année, de laisser passer Ricciardo, quand on sait les enjeux, hein, c'est de permettre à Ricciardo de prendre la place de Pérez, qui est en fin de contrat chez Red Bull en fin de saison, Eric?
Alors, je n'irai pas jusque-là dans l'analyse. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, en tout cas. Oui, alors déjà, Laurent a raison, il y a quand même de la compétitivité. Hein. Les pilotes sont extrêmement compétitifs et quelle que soit leur place, et surtout vis-à-vis de leurs équipiers, ils veulent rester devant. Après, il y a aussi un tout nouveau management dans l'écurie. Hein. Il y a eu Franz Tost pendant de nombreuses années, nouveau management, nouvelle personne. Je pense que les pilotes n'ont pas appris à bien se connaître encore avec les pilotes, pardon. Et donc, parce que ce genre de consigne, comme le disait Laurent, tu nous aides cette fois-ci, on te verra la prochaine fois. On n'est pas en train de jouer la pole ni le podium. Donc, effectivement, il y a, je pense, simplement une relation à créer entre le nouveau team principal, le nouveau CEO Peter Bayer et Laurent Méquies avec les pilotes et ainsi de suite. Quoi.
Ouais. Les amis, donc Camillo et Guillaume, est-ce que vous ne pensez pas que quand même ça transpire aujourd'hui que Red Bull et Christian Horner adorent Ricciardo, hein?
Peut-être. Moi, je pense que la décision, elle n'est pas liée à un phénomène chouchou.
Tu as regardé Drive to Survive récemment ou pas ?
J'ai pas regardé.
Alors, si tu regardes Drive to Survive, c'est impressionnant.
Mais la
bout de bras. Hein.
Non, mais la décision, elle n'est pas irrationnelle, en fait. Il ne faut pas oublier, vous ne l'avez pas rappelé, je vais le faire, que Ricciardo avait les pneus tendres à ce moment-là du Grand Prix et que Tsunoda avait les pneus durs. Et potentiellement, Ricciardo, s'il avait exploité la full capacité de ses pneus tendres, aurait pu gagner peut-être deux. Entre le top 10, c'était compliqué parce qu'il y avait Stroll qui était loin. Mais je pense qu'ils ont voulu faire ce pari-là. Et ce qu'a dit Ricciardo, et je suis assez d'accord avec lui pour le coup, c'est que si Tsunoda l'avait laissé passer un ou deux tours avant, qu'il avait appliqué la consigne directement, il aurait du coup moins dégradé ses pneus derrière Tsunoda et il aurait pu après dépasser plus facilement la voiture d'avant. Donc je pense que c'est un peu d'immaturité de Tsunoda sur ce dossier.
On a déjà parlé dans cette émission que si Red Bull est si amouraché de nos amis de Ricciardo, c'est qu'il y a une raison bien concrète. On sait qu'il est très populaire sur les réseaux sociaux, que c'est un formidable en termes marketing, c'est un bon client Ricciardo pour il est super bon bankable hein, pour eux.
Oui, mais je serais plus modéré de l'avis d'Eric, quoi. Aller analyser ça jusque-là, je ne sais pas. Je serais plus proche de ce que dit Guillaume, qui en plus, lui, regardait fort l'arrière du peloton. Donc, tandis que nous, on était plus concentrés sur l'avant. Donc, je pense en fait que tu as raison.
Alors, regardez quand même cette slide où on voit les nombres d'abonnés à Instagram. Lewis Hamilton, 34,8 millions d'abonnés. Charles Leclerc, 12,3 millions d'abonnés. Max Verstappen, 10,5. Il n'est que troisième, Max. Et le quatrième, c'est Daniel Ricciardo, 8,7 millions. Le souriant australien, moi, je l'aime beaucoup personnellement. Mais on sent bien qu'il y a quand même une relation particulière avec lui et Christian Horner, dont les déboires ne sont pas encore terminés. Loin de là. Comment ne pas parler de Learner Gate, stop ou encore alors, surprise, après plus de 3 semaines d'enquête, les amis, Red Bull a blanchi son team principal, Christian Horner, qui était depuis plusieurs semaines cloué au pilori en raison d'une attitude entre guillemets déplacée envers une employée de Red Bull. Circuler, il n'y a rien à voir, semblait dire l'écurie la semaine dernière. Et puis, des photos, des conversations sur WhatsApp ont fuité. Évidemment, nous avons pu nous consulter, comme beaucoup de monde, c'était sur les réseaux sociaux. Franchement, si ces conversations sont vraies, il ne faut pas 3 semaines d'enquête pour en tirer une conclusion, Laurent.
Non, déjà, c'est comment ça s'est passé, hein. C'est-à-dire qu'il a été blanchi le mercredi, et pendant la séance des C2 du jeudi, il y a quasiment 150 journalistes automobiles et tous les teams principaux et aussi les instances dirigeantes qui ont reçu un lien vers un Google Drive qui contenait des copies. On l'a eu en deux temps, nous, hein. Donc on a eu une première photo avec un certain nombre de messages. On s'est posé la question. Moi, mon intime conviction, c'est que c'est vrai. C'est que ce sont des vrais, parce que les messages sont trop neutres. Beaucoup de gens sont posés la question en disant, est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce que ce ne sont pas des faux messages qui ont été, tu vois, pour nuire? Et en fait, je me dis, mais si la personne avait fait des faux messages, il fallait faire des faux messages, tu vois, entre guillemets, grandiloquents.
Plus enflammés.
Là, les messages ne sont pas enflammés. Et la lecture est intéressante. Moi, je voulais partager mon analyse de multiples reprises dans l'équipe, quand on préparation de l'émission. Hein. Finalement, bon, c'est juste un Christian Horner qui s'est... Vous savez que je l'aime pas, hein, donc en plus
je l'aime
pas du tout. Et mais je pense que c'est une histoire de flirt. Alors avec des maladresses, un rôle du pouvoir. Ça reste le patron, c'était son assistante. Mais dans les échanges, et il faut comprendre un truc, c'est que les échanges que l'on voit, c'est les échanges que la personne dont on a du coup trouvé le nom parce qu'elle a fait une copie d'écran où on arrive à lire son nom. Donc
peu importe,
c'est pas malin. Mais
avançons.
Cette personne là, elle a choisi les copies d'écran. On se rend compte qu'il manque plein de choses au milieu. Donc on pense que c'est que ce qui a charge pour lui.
Oui, avant qu'il y ait une deuxième étage de la fusée, on verra la semaine prochaine. On a vu en tout cas l'épouse de Christian Horner dans le paddock pour soutenir son mari. Et alors que l'incendie commençait à s'éteindre, surtout après la domination de Red Bull,
bombe atomique.
Jos Verstappen, le papa du pilote Red Bull, a craqué une allumette, ou plutôt un cocktail Molotov, avec cette déclaration. Je cite, attention, ouvrez les guillemets, la tension va demeurer dans l'équipe tant qu'il reste en place. Il part bien sûr du Tipeee de Red Bull. L'écurie est en danger de dislocation. On ne peut pas continuer comme ça. Ça va exploser. Il joue à la victime alors qu'il est l'un de ceux à la base du problème. Mais à quoi joue le père de Verstappen, les amis? Alain.
Saint-Joseph, hein, Jos en néerlandais. Ouais. Magnifique, quoi. C'est le pyromane pompier. En gros, je suis persuadé qu'il est dans le coup.
Du début.
Bah, j'ai déjà dit la semaine dernière. Massacre à hockey choral, entre Christian et Helmut, il y a quand même du lourd depuis la fin de la saison dernière. Je crois, sincèrement. Je pense qu'Helmut envoie Jos au feu parce que Jos n'est pas prêt après de ça, quoi.
Elle est incompréhensible.
Incompréhensible.
L'équipe, elle a fait le doublé, elle est au-dessus très largement de tout le monde. Il ne me semble pas avoir instabilité au sein de l'équipe.
Par contre, il crée des tensions entre lui et le pilote.
Mais bien sûr. Donc pour le coup, moi, je suis d'accord avec Alain. Là, honnêtement, on pourrait croire qu'il a des intérêts à nuire à Christian Horner parce que je ne vois pas en fait quel est le rationnel de cette sortie. Franchement, je comprends pas.
Il a pété un câble.
Ouais, il y a plusieurs choses. Moi j'ai deux. Je lance deux idées. Et encore une fois, on a creusé, mais on a du mal. La première, c'est que depuis la mort de Dieter Matesic, on s'est rendu compte, on a découvert qu'il avait 49% des parts de Red Bull, mais il avait le management. Et apparemment, le management n'a pas été transmis à son fils et à l'équipe autrichienne. Donc ça pourrait vouloir dire que Red Bull, la partie asiatique, hein, originelle
thaïlandaise
de Red Bull, voudrait reprendre une partie de pouvoir.
Ah oui, d'accord.
Et eux sont proches de Horner parce qu'ils sont réalistes de ce que Horner a fait sur les 18 dernières années. Hein.
Et le poids marketing de l'écurie aujourd'hui.
Et le poids marketing de l'écurie dans le truc. Donc ça, c'est la première possibilité. Donc c'est peut-être une guerre de pouvoir entre l'Autriche, et on sait que Helmut Marko est un des fervents représentants de la branche autrichienne de Red Bull, hein, puisque c'était un ami de Dieter Matesic, et que par ailleurs, Jos et Helmut sont très proches. D'ailleurs, l'an dernier, quand il y avait des tensions, on avait dit que si, quand Helmut avait été menacé d'être viré parce qu'il s'était mal comporté,
on avait entendu
que
Jos
Max avait dit que si Helmut partait, il quitterait l'équipe. Donc, on sait déjà qu'il y a ces jeux de pistons qui jouent énormément. Ça, c'est la première approche. Ouais. La deuxième approche, c'est peut-être qu'on ne sait pas quelque chose qui est déjà acté. Par exemple, j'en sais rien, moi, le départ de Newey. J'en sais rien. Je lance ça en... Et que donc, on se dit, ben donc, l'an prochain... Red Bull ne sera plus aussi bon avec le changement de réglementation.
2026, dans deux ans.
Et donc, il y a tout intérêt à ce que je fasse imploser maintenant pour qu'on puisse casser le contrat, y compris le contrat de mon fils Max, pour qu'il puisse aller voir une autre écurie. Non, mais j'en sais rien.
C'est alambiqué, hein.
Oui, c'est la théorie du complot.
C'est-à-dire que, en gros, je casse le contrat parce qu'effectivement, mais tout simplement, on le sait, si Horner s'en va, et bien justement Newey s'en va, hein, ils sont intimement liés.
Ils sont intimement liés.
Parlons-en avec Eric. Il va nous en dire un mot dans un instant. Et effectivement, ça permettrait de casser le contrat de Verstappen qui doit être lié à la présence d'Horner, voire de Newey. Mais t'imagines le risque que ça représente. Et puis on n'est pas sûr que dans deux ans, vu les résultats de Mercedes, ils soient au niveau de Red Bull. Eric, ton sentiment?
C'est une histoire à la F1. Je veux dire, tout va bien, ils dominent, ils ont tous les records du monde, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de se taper dessus.
Et, c'est plus que taper dessus. Là,
je pense que oui, mais
il va y avoir des morts.
Il y a d'abord une petite guerre de pouvoir entre les Autrichiens et les Anglais. Enfin, en tout cas, Horner et le clan autrichien. Quand je dis clan autrichien, ça inclut l'Autriche et la Hollande. Il y a des choses qui clairement le management est à 49%, Laurent, oui, ça c'était connu, c'était le cas en fait, mais ce deal reposait sur la personnalité de Dieter Mateschitz, et effectivement le deal a été remis en cause à son décès. Son fils d'ailleurs a refusé officiellement de reprendre les rênes de Red Bull, et ça a été splitté entre plusieurs personnes. On sait que Olivier Mintschaft, je crois qu'on prononce ouais. comme ça, n'affectionne pas particulièrement Christian Horner. Il est possible que, enfin, je l'ai déjà rencontré dans ma carrière, que la F1, le rôle de team principal attire forcément ceux qui ont besoin de lumière pour exister dans des grands groupes, parce qu'il y a un tel concentré de médias. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe,
il y a une
fêlure, on va dire. entre l'Autriche, la Thaïlande et Christian Horner. D'ailleurs, pour la petite histoire, il se murmure que quand l'affaire a éclaté, et qui donc il y a déjà plusieurs semaines, bien avant qu'on le sache, Christian Horner avait été notifié qu'il était licencié sur le champ, et que lui avait fait jouer une clause de son contrat, qu'il avait le droit à une enquête indépendante, et donc c'est comme ça qu'il a sauvé sa tête. Mais pour l'instant, mais je pense que c'est plutôt une guerre de pouvoir, en fait, où il y a des gens qui veulent récupérer la place d'honneur.
Et l'attitude plus assez incompréhensible, encore une fois, la grenade qu'a découpillé Jos Verstappen, tu l'interprètes comment?
Je garderai mes pensées pour moi. Je pense que c'est pas très malin. C'est pas très malin, ou alors il y a un peu de manipulation et que Jos a fait du Jos, quoi.
Bien, de toute façon, c'est un feuilleton qui va durer encore quelques grands prix, malheureusement. Je vous propose qu'on passe à la rubrique préférée de cette émission. Je le sais, c'est le quiz F1. On va faire le quiz F1. On passera au sponsor juste après. Vous le savez, vous en avez l'habitude, chaque semaine, 4 questions, une réponse dès la première vous rapporte 4 points, ensuite 3 points pour la seconde, 2 points, etc. Est-ce qu'on est prêt en régie? Faites-moi un petit coucou en régie pour noter les points de chaque participant.
On est bon.
Alors, vous êtes prêts, messieurs? On va y aller. Il s'agit d'un ingénieur, je précise qu'il est français. J'ai débuté en F1 chez Arrows, puis Minardi. Elle n'est pas facile. J'ai débuté en F1 chez Arrows puis Minardi pour 4 points, messieurs. Évidemment, si vous répondez, vous êtes éliminé. Alors ça vous en met sur la voie. Deuxième info, ou indice, j'ai rejoint la FIA en 2014. J'ai rejoint la FIA en 2014. Je suis un ingénieur qui a commencé chez Arrows puis Minardi. Attention.
Laurent Melchiès.
Bravo, Eric. Bravo, effectivement. Et l'info suivante, c'était je suis recruté en 2018 par Ferrari et en 2024, j'ai rejoint l'écurie F1 Racing Bull pour en devenir le team principal. Il s'agissait bien sûr de Laurent Melchiès. Good job. Allez, il s'agit d'un pilote cette fois-ci. J'ai gagné ma première course alors que j'étais un rookie en Formule 1. Il faut prendre des risques, les amis. Hein.
Verstappen.
Perdu. J'ai été. Pardon ?
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton. Oh là là, 8 points, c'est énorme. C'est énorme. J'ai été le coéquipier de Fernando Alonso. En F1, j'ai toujours couru pour Mercedes. Et enfin, je vais rejoindre la Scuderia Ferrari, Forza Ferrari, l'année prochaine en 2025. Allez.
Alors, Laurent.
Ouais, j'hésitais entre lui et. Je cherchais le deuxième, en fait. Et donc, un deuxième et, pour éliminer. Donc
ça fait 7 points en régie, si je ne me trompe pas, c'est pour ça, notre team principal. On parle d'un circuit. Je suis un circuit dessiné par Hermann Tilke. Il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup.
Circuit de Turquie.
Ça aurait pu être la Turquie, mais non. Je suis un circuit urbain dessiné le long d'une corniche. Il a trouvé.
Abu Dhabi.
Pardon ?
Abu Dhabi.
Non, perdu. Je suis un circuit urbain dessiné le long d'une corniche. Tu pouvais dire le pays. Hein,
non.
Ah ouais, mais non.
Azerbaïdjan ?
Non. Guillaume, il reste plus que toi. Le dernier vainqueur de F1 sur mon tracé est Sergio Pérez. Je suis une ville d'Arabie Saoudite.
Jeddah.
Ah bah quand même, un point. Bah oui, une corniche, oui. Ah oui, c'est le concept du circuit.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Ok.
On enchaîne. Un pilote. Alors, j'ai remplacé un pilote, et c'était Daniil Kvyat en son temps. J'ai remplacé un pilote pour 4 points, et il s'agissait
de... Max Verstappen.
Non.
Et t'as entendu le mien ou pas ?
Qu'est-ce que t'as dit ?
Albon.
Non.
Oh non. J'aurais pas dû le.
Je suis connu pour mon langage châtié à la radio.
T'as dit la remplacer David Kvyat.
Ouais.
Ah. Ok. C'est peut-être.
Je suis le plus petit pilote du plateau.
Ouais.
Il est tout petit. Il est petit. C'est nerf, mais il est petit. Ouais. Oh, Camille.
Allez, on en a parlé tout à l'heure.
Moi, je l'ai, oui.
Je suis le pilote de la filière Honda.
Ah, Yuki.
Yuki Tsunoda, un point pour Don Camille. Eh ben, dis
il
donc.
A remplacé Kvyat.
Eh oui.
Mais c'était, ah, il était encore là, Kvyat.
Plus tard, moi.
Moi, je le voyais avant. C'est pour ça que
Kvyat,
j'ai parlé d'Albon.
C'est le père de l'enfant de la femme de Verstappen.
Aïe, aïe, aïe.
Hein ? Il parle de qui, là ? Tu dis quoi ?
Bon, bref.
C'est le père de l'enfant de la femme de Verstappen.
C'est parfait. Un pilote.
C'est l'ex de...
Ouais, ok.
Pilote. Soyez attentif.
Un pilote.
Je suis. Alors là, c'est un peu. Il est difficile. La première, j'avoue, j'ai mis le niveau assez haut. Je suis le plus jeune vainqueur d'une course en DTM. Vous savez, DTM, c'est les voitures de tourisme en Allemagne.
Ouais. Je pourrais tenter un petit pari, mais.
Allez.
C'est bon. J'attends ta deuxième. J'hésite entre deux.
Lors de ma seconde qualif F1, je me classe devant Verstappen. Aïe.
Hülkenberg.
Non.
L'autre, Magnussen.
Non.
Ah putain.
Je suis un pilote néo-zélandais.
Ah.
Mais tu as répondu. Tu peux pas parler.
Non, j'ai pas répondu.
T'as pas répondu
et je l'ai, c'est monsieur Hartley. Comment il s'appelle là Ah mais bon.
Non.
Je l'ai. Si,
ben
si.
Hartley.
Voilà.
Non.
Non ?
Non !
C'est pas lui.
Mais.
J'ai remplacé Daniel Ricciardo chez AlphaTauri après sa fracture de la main.
Oui.
Ah !
Liam Newson. Voilà. Accessoirement, c'est le cousin de ma femme.
Ah, néo-zélandais ?
Ouais.
Ok. Accessoirement, c'est le cousin éloigné de ma femme. Ça vous intéresse pas ce que je vous dis ?
Non, on s'en fout, mais j'aimais bien ce pilote, moi.
Il était néo-zélandais, Hartley, non ?
Oui, mais là, c'est Liam Newson dont on parle. Ça donne quoi en régie ? C'est toujours une nette domination de monsieur le team principal ?
Bah oui.
Je crois que c'est gagné pour Eric. Bon, on va aller quand même jusqu'au bout. Un dirigeant d'une écurie de F1. Bon. J'ai participé à 9 Grands Prix en Formule 1.
Helmut Marko.
En tant que pilote, Helmut Marko. Bravo, cher ami, impressionnant. Helmut Marko, 9 fois... 9 participations, il était plutôt bon. Hein. Et malheureusement, un dramatique accident
Clermont-Ferrand
au Grand Prix de France en 1972 met fin à sa carrière. J'ai permis, entre autres, à Vettel, Verstappen de faire ses débuts à F1. Je dirige le programme de détection des jeunes pilotes de Red Bull. Et c'est donc monsieur le team principal, Eric Bouillet, qui rapporte une nouvelle fois ce quiz F1. Bravo, Eric.
Bravo, Eric.
Merci.
Bravo, Eric. On a été très
Allez, bien. On enchaîne avec vos pronos du Grand Prix de Jeddah. Avant d'abord de voir ce que vous avez dit la semaine dernière et qui est le plus proche du résultat de cette semaine, un mot au sujet de notre sponsor Unibet. Le site de Paris en ligne vous propose de miser sur les Grands Prix de F1. Pour le découvrir, Unibet vous propose 100 euros de bonus en cas de premier pari perdant, versé en free bets. Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le lien épinglé en commentaire dans la description de cette vidéo ou encore en scannant le QR code qui s'est affiché à l'écran. Rappelons que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il faut bien sûr jouer de manière responsable. Alors, on va s'intéresser à vos pronostics de la semaine dernière. On va voir qui était le plus proche de la réalité. On écoute.
Je vais faire Max Sainz parce qu'il va vouloir avoir une revanche sur Charles. Donc Charles, troisième.
Max Leclerc Sainz.
Max Leclerc Sainz.
1, Verstappen. 2, Perez. 3, Leclerc.
Allez, Charles, Max Sainz.
Hamilton.
Tu fais bien de faire avoir
Norris.
Sur le quiz F1. Hamilton, Norris.
Charles.
On va faire comme Red Bull.
Alors moi, je ne vais pas prendre des risques. Je vais dire, parce que bon, à part un souci mécanique, bien sûr, notre ami Max Verstappen en pole. Deuxième, Charles Leclerc. Et troisième, Fernando Alonso.
Il avait dit quoi, Fabrice ?
Fabrice, il avait dit Leclerc premier. Ah ouais. Voilà, donc il est aux fleurs.
C'est Guillaume là.
C'est Guillaume qui.
Le moins loin, c'est Guillaume. Ouais. Le deuxième, c'est
sans les problèmes de frein de Leclerc, je pense que j'aurais eu le bon podium.
Ouais, mais non, okay. C'est vrai. Non, t'as bien. Écoutez bien, si vous voulez parier avec notre avec notre sponsor Unibet, les paris de Guillaume. Alors, avant de demander vos pronos, on va jeter un coup d'œil aux cotes d'Unibet cette semaine, si on les a prêtes en régie. Regardez, évidemment, Verstappen. Sans surprise est largement la plus faible cote, mais il y a des choses à faire en cas de, avec notamment Leclerc, avec notamment Perez ou encore avec Hamilton qui est une belle cote également cette semaine. Alors on commence justement avec Guillaume. Quel est, écoutez bien parce qu'il a le don de trouver le généralement. Qu'est-ce que tu mets pour cette semaine pour le Grand Prix de Arabie Saoudite, le Grand Prix de Jeddah?
Le podium sera en 1. Verstappen, en 2, Perez et en 3, Russell.
Petite cote pour Verstappen, mais vous pouvez aussi miser pour le deuxième ou le troisième. Vous allez voir ça chez nos partenaires Unibet. Laurent.
Vous savez que d'habitude, j'aime bien prendre des risques. Et là, j'ai décidé de prendre moins de risques.
Parce que là, tu paries ton argent, c'est pour ça.
Verstappen, Perez, Hamilton. Ça va arriver à un moment donné, putain.
Eric.
Alors moi, je vais prendre un peu de risque. Je prends Verstappen, Leclerc, Sainz.
Ah, ça a changé. Bon, Verstappen, Perez, Sainz. D'accord.
Leclerc, Sainz.
Donc les deux Ferrari.
Ouais.
Pépone. Non, donc Camille, excusez-moi. Pépone, il n'est pas là aujourd'hui.
Allez, Verstappen, Leclerc, Perez.
Et il nous a donné son...
Ouais, on va
l'utiliser. Le... Hein. Alors pour Pépone, c'est Leclerc, Verstappen, Sainz.
Il peut pas s'empêcher, hein, Leclerc. Hein. Il n'en démarre pas. Bien. Et moi de mon côté, ce sera pour moi Verstappen, Leclerc et Hamilton. Belle cote pour Hamilton. On ramasse les copies lundi prochain. Soyez au rendez-vous. C'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve dans une semaine, lundi 11 mars, pour un débrief complet du Grand Prix de Jeddah. On refait la F1, vous le savez, c'est tous les lundis soirs après chaque Grand Prix. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne. N'oubliez pas, nous avons notre propre chaîne YouTube On refait la F1 puisque l'émission ne sera plus à terme sur la chaîne de Refait le Mac. Donc abonnez-vous, appuyez sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. À la semaine prochaine et merci encore pour votre fidélité. Lundi 11 mars, le prochain épisode de Refait la F1. Salut, merci.
Au revoir.